Question clé. La richesse des langues. 1. Pourquoi la diversité des langues? S'il y a autant de langues et si chacune est importante, comme le soulignent les Indiens d'Amérique en 1992, c'est qu'une langue est bien plus qu'un simple outil de communication. Elle véhicule une expérience du monde unique et irremplaçable. Ce que l'on dit dans une langue, on ne le dit jamais tout à fait de la même manière dans une autre. Cassiré, page 212. Les langues sont des phénomènes culturels, ancrés dans un rapport au monde, façonnés par une histoire et par une géographie. N'est-ce pas pour cette raison que l'art de traduire est, en général, si difficile et si subtil? Passer d'une langue à l'autre ne revient pas à dire la même chose autrement, mais à trouver un équivalent dans un autre système de représentation et de savoir. N'est-ce pas ce vécu social qui échappe complètement aux traducteurs automatiques? La linguistique, fondée par Ferdinand de Saussure au début du XXe siècle, distingue la langue comme fait social partagé par une communauté et le langage comme faculté générale qui se déploie dans toutes les langues. Le langage a une dimension organique. Il dépend de fonctions physiologiques et cérébrales. De ce point de vue, il est une fonction naturelle. Mais le langage est aussi un produit de l'évolution des espèces. Il accompagne la socialisation. À quoi bon le langage pour des êtres isolés et dispersés? Rousseau, page 213. Ce n'est pas la nature qui dicte aux humains des langues, selon Saussure. Une langue est faite de conventions. Celles-ci font l'objet d'un long apprentissage. Comme le montrent les cas d'enfants sauvages, Condillac, page 213, une langue ne se parle pas naturellement, elle s'apprend dans l'enfance, sur la base de l'imitation et de certaines conditions affectives. Par ailleurs, ces conventions se maintiennent par une sorte de contrat. Dans toute société, des autorités ou des institutions règlent leur usage commun. Foucault, page 225. Mais si, selon Saussure, la nature ne dicte pas aux humains les langues, c'est bien elle qui permet aux humains de constituer des langues. Si, par conséquent, la question de l'origine du langage peut trouver une réponse dans les sciences naturelles, Lucrèce, page 214, il paraît plus compliqué de répondre à celle de l'origine des langues. Platon, page 215. Pourquoi telle ou telle convention, tel ou tel signe pour désigner quelque chose? La linguistique s'est détournée de cette question jugée trop métaphysique pour expliquer scientifiquement comment les signes produisent du sens. 2. Quelle relation entre langage et pensée humaine? La comparaison avec des systèmes de communication animale permet une approche expérimentale. Les abeilles indiquent par une danse et un frétillement de l'abdomen où trouver du pollen. Benveniste, page 216. Des primates, les mones de Campbell, parviennent à donner des informations précises par combinaison et modulation de quelques cris de base. Des équipes de chercheurs ont réussi à communiquer avec des singes à l'aide de jetons. Mais ce qui frappe dans les langues humaines, c'est le caractère moins uniforme et plus inventif de la communication. Descartes, page 217. Tout d'abord, on compte environ 7000 langues parlées par les hommes. C'est dire que les signes linguistiques ne sont pas programmés à l'avance dans chaque individu de l'espèce. Pour Saussure, c'est l'arbitraire du signe, c'est-à-dire le fait que le signe soit sans fondement naturel, qui rend possible la diversité des langues. Le lien entre le signifiant et le signifié dépend d'une convention sociale, il n'est pas donné avec un patrimoine génétique. De même, à l'intérieur d'une langue, le nombre des messages possibles n'est pas déterminé à l'avance. Il semble incalculable et infini. Il y a une certaine liberté dans la production des messages. Les signes linguistiques ne fonctionnent pas comme des signaux déclenchés par des situations objectives. Wolf, page 218. Comment expliquer sinon le mensonge, l'exagération ou même le silence? Il y a aussi une certaine indétermination dans leur signification. Selon le contexte, l'interlocuteur, selon la place dans l'énoncé, le choix des autres signes auxquels ils sont associés, un même signe ne peut-il pas dire des choses très différentes? Mais si les facultés de la pensée sont liées aux facultés du langage, Platon, page 215, d'Occam, page 219, comment comprendre l'expérience de l'inexprimable? Bergson, page 220. Dans la prise de parole, nous avons souvent le sentiment de chercher les mots pour exprimer notre pensée, comme si celle-ci était antérieure et en dehors au langage. L'idée d'une pensée intérieure est-elle une illusion? Hegel, page 220. Langage et pensée, c'est la même chose? 3. En quel sens le langage est-il action ? Loin de se cantonner à la représentation et à la communication des idées, le langage est aussi action. Un mot, une citation, joue le rôle d'une autorité. Berkeley, page 222. Par ailleurs, un discours éloquent peut nous porter à l'action et modifier profondément notre conduite. Gorgias, page 224. Dans le champ scientifique, la pragmatique analyse l'action du langage. Elle s'intéresse non pas simplement aux messages, les énoncés, mais aux actes de langage, les effets de l'énonciation, dans un contexte donné. Dans quelle mesure l'attention portée à ces actes ne bouleverse-t-elle pas l'idée que l'on se fait de notre spontanéité de sujet dans le langage ? Parler semble nous soumettre à des règles inconscientes, non seulement logiques, mais aussi sociales. Wittgenstein, page 223, Foucault, page 225. Si le langage constitue une forme de conditionnement, il reste que les humains sont capables, grâce au langage, de faire un travail de réflexion sur leur propre déterminisme et de les interpréter. C'est la fonction dite « métasémantique » du langage humain. Il peut parler de ses propres structures. En ce sens, le dialogue n'est-il pas libérateur et profondément humain ? Arendt, page 230. À retenir. Toute langue porte une vision du monde, une façon propre d'organiser l'expérience dans des mots, dans une grammaire et dans des récits qui structurent la société. Le langage permet de concevoir des idées abstraites et des relations complexes comme le possible. Il est le cadre dans lequel s'élaborent les concepts, les idéaux et l'imaginaire. Au fond, le langage est la clé de notre pensée et de son rapport au monde. Mais si nous pensons avec les langues, elles semblent aussi agir sur nous à notre insu. Grâce à la faculté infinie du langage, l'homme peut produire une parole plus personnelle.